Vous connaissez, chers auditeurs, ce commandement que le Christ donna à ses apôtres avant son ascension. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis il ajouta, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Lors de notre dernier rendez-vous, nous avons vu qu'en effet, des signes et des prodiges ont accompagné l'Église naissante. Évidemment, tous les croyants baptisés ne possédaient pas ces pouvoirs miraculeux. Ils étaient au commencement exclusivement la propriété des apôtres. Mais par l'imposition des mains, ces derniers pouvaient en transmettre quelques-uns à certaines personnes dans les différentes communautés chrétiennes qui s'établissaient partout où la parole était prêchée. C'est ainsi que la communauté qui venait de naître en Samarie dut attendre l'arrivée des deux apôtres, Pierre et Jean, avant de recevoir ces dons spéciaux par l'imposition des mains. Une question se pose à présent, pourquoi ces dons spirituels? Quelle était leur utilité? Et devaient-ils durer indéfiniment? Il est évident que ces manifestations miraculeuses de l'Esprit facilitèrent beaucoup, au premier siècle, la tâche des ouvriers évangéliques. Elles avaient pour but immédiat de confirmer l'origine divine de leur message. La Bible dit qu'après le départ du Christ, les apôtres s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Les apôtres ne pouvant pas être partout à la fois, et l'Évangile n'étant pas encore un document écrit que l'on pouvait consulter, on comprend qu'ils aient transmis des dons spéciaux par l'imposition des mains à certaines personnes pour supplier, en quelque sorte, à leur absence. On peut dire qu'à cette époque cruciale que fut l'établissement de l'Église au 1er siècle, ces manifestations miraculeuses de l'Esprit furent comme un échafaudage destiné à maintenir l'édifice en construction. Lorsque l'édifice est achevé, on enlève l'échafaudage. Quand ces manifestations de l'Esprit devaient-elles cesser? Qui peut le savoir? Mais le fait est qu'elles ont cessé. Les témoins du deuxième siècle après Jésus-Christ n'en font plus mention dans l'Église. Par ailleurs, Paul n'avait-il pas dit « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra », autrement dit, ces privilèges spéciaux accordés à l'Église naissante. Mais tout cela est appelé à cesser, tandis que demeurent la foi, l'espérance et la charité. Et il ajoute « Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ». Quoi qu'il en soit, et il faut avouer que ce sujet est très complexe, que penser de ceux qui prétendent avoir des dons de guérison et qui imposent les mains aux malades à grand renfort de publicité et de passages bibliques? Si nous les examinons de très près, à la lumière des Écritures, notre jugement s'éclaire. Les miracles, les guérisons, les prodiges qui nous sont rapportés dans les Écritures, ceux opérés par le Christ ou par ses apôtres, sont tous, sans aucun conteste, possibles des miracles. Ils sont clairs et nets. Même leurs ennemis étaient bien forcés de constater qu'il s'agissait bien de miracles, sans qu'il faille pour cela appeler un médecin pour établir un constat officiel. Une autre chose caractérise les miracles rapportés dans la Bible, ils sont non seulement tangibles et visibles, ils sont aussi immédiats, on peut même dire instantanés. Voici un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple à Jérusalem pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Pierre et Jean s'approchent. L'homme s'attend à recevoir de l'argent, mais Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, marchant et sautant et louant Dieu. Voilà un cas de guérison que l'on peut qualifier de typique, un boiteux de naissance. Il ne s'agit pas d'une obscure maladie interne, mais d'une infirmité que tout le monde peut constater et a pu constater pendant des années. Et dès que l'homme de Dieu a parlé, au même instant, l'homme est guéri, il marche et il saute de joie. Tous les miracles du Christ ont ce même caractère d'authenticité, pouvons-nous dire. Souvenez-vous de la guérison des lépreux, de la belle-mère de Pierre, terrassée par la fièvre. Souvenez-vous des aveugles guéris par Jésus, du sourd et muet qui se mit à parler et à entendre aussitôt. Et que dire de l'eau changée en vin, de Jésus marchant sur les eaux, de la multiplication des pains, de la tempête apaisée? Tout cela est varié, c'est le moins que l'on puisse dire. Quel que soit le miracle, personne ne peut le nier. Comme nous l'avons déjà suggéré, les ennemis du Christ, faute de pouvoir contester l'authenticité de ses miracles, durent faire appel à une explication aussi désespérée que ridicule. C'est par le prince des démons qu'il fait toutes ces choses. Ne pensez pas qu'il est déloyal de ma part de comparer les guérisseurs religieux modernes au Christ au lieu de les comparer aux apôtres. Ce que le Christ a pu faire, les apôtres l'ont fait aussi. Ne leur avait-il pas promis, en outre, qu'il ferait des œuvres encore plus grandes que lui ? Les apôtres ont fait de grands prodiges, eux aussi. Ils étaient le Christ continué. Et comme Jésus a ressuscité des morts, eux aussi ont eu ce pouvoir sur la mort. Car il leur avait dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Ce que je veux savoir, c'est que si l'on prétend détenir des pouvoirs miraculeux aujourd'hui au nom du Christ, pourquoi n'y a-t-il jamais de sourds qui entendent, d'aveugles qui voient, de morts qui ressuscitent, ni de paralytiques qui sautent de joie ? Aussitôt, au même instant. Car si l'on prétend pouvoir guérir au nom du Christ un ulcère, on peut par ce même pouvoir ressusciter des morts. Au lieu de cela, on parle de maladies du foie ou de l'estomac, de rhumatisme, de maux de tête. On exhibe des certificats médicaux pour prouver que telle guérison est complète. Souvent, on parle d'amélioration. Si la guérison n'a pas eu lieu malgré les invocations spectaculaires du guérisseur et malgré l'imposition des mains, on dit que le malade n'a pas assez de foi. Revenez à la prochaine séance d'imposition des mains. Je me demande quel genre de foi Jésus a exigé de Lazare avant de le sortir de son tombeau. Non, tout cela n'est pas sérieux. Cela constitue une caricature de la religion. Malgré le fait que des dizaines de charlatans ont été convaincus de supercherie, de nombreuses personnes crédules, hypersensibles pour la plupart et mal affermies dans les Écritures se laissent encore prendre. Loin de nous cependant de vouloir laisser l'impression que Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui. Dieu est tout-puissant et ce n'est pas l'homme et sa théologie qui peuvent limiter sa puissance. Dans ses études, nous avons seulement voulu répondre à ceux qui prétendent détenir, au même titre que les apôtres, le don miraculeux de l'Esprit, leur permettant d'opérer des miracles. Il ne nous a pas été difficile de montrer qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les miracles enregistrés au temps apostolique et les apparentes guérisons miraculeuses qui se font aujourd'hui. Ceux qui insistent sur l'actualité des guérisons miraculeuses opposent généralement la guérison par la foi à la guérison par les soins de la médecine officielle. Et l'on connaît ces cas navrants où des personnes sont mortes pour avoir refusé d'appeler un médecin ou des parents ont préféré laisser mourir leur enfant plutôt que de le faire soigner. Avec le pasteur René Château, auteur du livre « Problèmes biologiques et problèmes religieux », nous dirons que cette opposition n'a aucun fondement biblique. Il est grave, il est absurde de pouvoir penser que l'action technique et charitable du médecin se situe hors de toute perspective religieuse. Tout ce qui va dans le sens du service du prochain va dans le sens de Dieu. Pratiquée dans l'esprit de désintéressement et de service qui est le signe d'une vocation solide, la science médicale est donc l'allié de la foi et non pas son adversaire. Saluons avec reconnaissance les noms de tous les chercheurs qui, par leurs travaux, ont fait reculer la souffrance humaine. Saluons aussi tous les anonymes qui, de nuit et de jour, au chevet des malades, luttent pour protéger la vie. Œuvrer dans cette direction, c'est œuvrer dans le sens de Dieu. Il faut le dire et le répéter tant cette vérité d'évidence est ignorée d'un grand nombre d'hommes d'aujourd'hui. Il n'y a pas pour le croyant de guérison par la foi à opposer à la guérison par la technique médicale. La foi est plus et mieux qu'un simple agent thérapeutique. Elle ne produit pas la guérison, elle la demande par la prière. Et si cette demande est exaucée, le croyant rapportera toujours à son Dieu cet exaucement. Sa guérison est une guérison dans sa foi. Prions donc avec ferveur, fidèlement, pour nos chers malades. Invitons-les à chercher eux-mêmes une force dans la prière, mais ne tentons pas Dieu en refusant ou en méprisant les soins de ceux qui ont reçu vocation de soigner leurs frères. Soit, me direz-vous, vous avez peut-être raison. Mais avouez tout de même qu'il se passe quelquefois des choses extraordinaires qui ressemblent bien à des guérisons miraculeuses. Bien sûr. Et je n'aurai pas l'imprudence ni la naïveté de nier certains phénomènes pour le moins étranges et surprenants. Mais il faut se garder de voir dans un miracle ou dans un phénomène qui paraît miraculeux un signe absolu du divin, une preuve de vérité. Le Christ lui-même ne signa-t-il pas qu'au jour du jugement, plusieurs me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » et par les quelques versets qui suivent, il montre que ce n'est pas le miraculeux qui prouve la proximité ou l'approbation de Dieu, c'est l'obéissance à sa volonté. Voilà le vrai critère, et c'est celui par lequel nous serons tous jugés. Selon le mot de Pascal, c'est la doctrine qui discerne le miracle.